Les 50 ans de la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, par Sacha Corso et François Teste. Deuxième épisode, La Hulotte, un journal cousu-main.
Comment est-ce que vous pourriez présenter Philippe Caruette, La Hulotte, à quelqu'un qui ne la connaît pas ?
C'est un peu à La Fontaine, des revues où on est à la fois dans la bande dessinée, dans le conte, dans le livre scientifique. Donc chacun va y trouver son bonheur. C'est accessible à tous. On peut à la fois s'intéresser au texte, s'intéresser au dessin. C'est très pratico-pratique. C'est très concret. C'est le couteau suisse de la protection de la nature. Et des grands scientifiques comme Jean Dors, qui a été directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est lui qui a écrit le livre « Avant que nature ne meure », disait il y a un livre sur la protection de la nature qui est intéressant, c'est la Hulotte. Et pourtant, je pense que des thèses et des bouquins scientifiques, il en a lu énormément, Jean Dors. Donc c'était un des plus bels hommages qu'on pouvait faire à la Hulotte.
La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, paraît une à trois fois par an. Depuis 1972, de nombreuses espèces ont été traitées. De la chlorophylle au vautour fauve, du sphinx tête de mort à la tortue sauvage, du lynx boréal au lierre, de l'araignée Napoléon au crapaud accoucheur, et en ce moment, le merle, objet des derniers numéros. Mais comment est fabriquée cette revue ? Pierre Déhomme, son créateur, nous raconte depuis son bureau de Boult-au-Bois, dans les Ardennes.
Sur un numéro comme celui-ci, où on a une quarantaine de pages, 43 pages, combien de temps de travail pour vous ?
Alors une page, c'est à peu près 25 heures de travail. Enfin, un numéro, ça va faire à peu près 1500 heures de travail. Ça dépend beaucoup du sujet. Il y a des sujets qui sont plus difficiles et d'autres qui sont franchement compliqués. Soit par le dessin, qui est le poste le plus chargé en temps. Très souvent, il dépasse 700 heures. Et soit la documentation, qui est quelquefois facile, quelquefois beaucoup plus complexe.
Et comment est-ce que vous décomposez donc le temps de travail nécessaire à la fabrication d'un numéro ?
Alors, le départ, c'est le choix d'un sujet, et ça fonctionne en grande partie au coup de cœur. Mais également, j'essaye, dans toute la mesure du possible, je n'y arrive pas toujours, à varier les sujets, c'est-à-dire pas faire que des oiseaux ou que des mammifères, de m'intéresser à des sujets qui, comme les batraciens, les insectes, qui sont plus difficiles à traiter, parce que la documentation manque souvent, surtout les insectes, les plantes encore plus. Quand j'ai une idée, je vais voir dans ma bibliothèque ce dont on dispose comme documentation. Il y a des sujets qui sont peu documentés, où je vais rapidement m'apercevoir que je n'ai pas de quoi documenter mon affaire. Et le sujet, dans ce cas-là, va rester un peu en jachère, quelquefois 10 ans. Voilà, donc une fois que le choix est fait, que je me rends compte que le sujet a l'air quand même assez bien étudié, avec Claire, ma documentaliste, on part à la recherche de la documentation scientifique. C'est la deuxième étape.
Oui, bah écoutez, je m'appelle Claire Ménissier, et donc j'assiste Pierre Déhomme pour la documentation, et je réponds aux questions des abonnés.
Quand vous parlez de documentation, c'est la partie préparatoire pour chaque numéro ?
Il s'agit de rassembler ce que nous avons en documentation, dans les livres et dans les revues. Rechercher s'il existe des articles ou des ouvrages de synthèse, des monographies par exemple sur une espèce, pour après tirer des fils en fonction de ce qui nous intéresse, rechercher des études un petit peu plus poussées. Après, j'aide Pierre Déhomme aussi pour les enquêtes, auprès des spécialistes qu'on a pu repérer. Participe aussi parfois à la recherche de documentation iconographique.
Après ça, Pierre Déhomme écrit ses textes, fait les dessins.
Oui. Ouais.
Et ensuite, est-ce que vous avez un travail, vous, de relecture ou...
Oui, voilà. à la fois sur la forme, les coquilles, et puis aussi sur le fond. Parfois, je n'ai pas exactement gardé les mêmes souvenirs que ce que je vois écrit, donc je vais retourner dans les sources et puis vérifier que c'est bien soutenu par la documentation.
Notre première étape, c'est de constituer 10 cahiers documentaires. Alors, les cahiers documentaires, je peux vous les montrer. Voilà. Alors, ce sont des cahiers de 200 pages dans lesquels on a photocopié toutes les pages des travaux scientifiques, vous voyez. Et on va passer à l'étude de tous ces travaux. Tous les éléments qui nous intéressent, on va les cocher en leur donnant un numéro d'ordre sur le cahier documentaire. Les pages sont numérotées de 1 à 4000, on a quelquefois 4000 pages.
D'accord.
Et notre obsession pendant tout le travail, ça va être de pouvoir retrouver nos sources instantanément. C'est-à-dire que si on a le moindre doute, et on en a beaucoup, hein, cours de travail, parce que la ULOT, c'est 6 mois de travail, quelquefois plus, parce que les numéros qui sont des séries ont plusieurs parutions, on arrive à travailler quelquefois un an et demi après le début des opérations. Donc on a des doutes, on a des questionnements. Il y a beaucoup d'études qui sont en langue étrangère, on peut faire des erreurs de traduction. Donc il faut qu'on puisse immédiatement retrouver les éléments. Donc chaque élément, si vous voulez, va être numéroté, sourcé. Bon, ici, c'est la page 713. Et vous avez ici une information qui a le numéro 6. Donc ça sera l'observation 07-13-06. Et on va la reporter sur
un deuxième... Un... Ou...
Non, c'est un... Ça va être... Voilà. L'outil de base, c'est le plan notes. Ça, c'est clair qu'il s'en charge. Le plan notes, on va rassembler tous les éléments qu'on a pu avoir et qui nous paraissent intéressants. Donc là, il y a vraiment un choix. Et on va mettre en les uns par rapport aux autres toutes les informations qui concernent un point de biologie.
Par exemple, sur le moineau, il y a un de nos abonnés qui a été très frappé parce que on disait que des mineurs avaient nourri des petits moineaux qui s'étaient reproduits au fond d'une mine, mais qu'après il y avait une grève et que voilà, le moineau était resté sans l'aide des mineurs, et lui, ça l'avait vraiment marqué, parce qu'il trouvait que c'était important de faire grève, mais il trouvait que c'était important de protéger les oiseaux. Et on a pu lui dire exactement d'où provenaient les deux informations, très rapidement, en fait. Voilà. Donc chaque paragraphe est sourcé, même ce qu'on trouve sur Internet, tout est imprimé. Voilà, on est beaucoup au papier, en fait, parce que ça... Ça permet ce travail de numérotation très, très précise. Ce qui me permet, moi, quand je suis un peu interpellée par ce qu'il a écrit, parce que je n'ai pas gardé le même souvenir, ça me permet d'aller revoir chacune de ses sources et de voir, bah, oui, tout à fait, c'est concordant, ou de dire, ah, là, on peut peut-être interpréter autrement. Et là, on en rediscute.
Et vous faites jusqu'à combien d'allers-retours entre Pierre Dehomme et vous ?
Là aussi, c'est variable selon les sujets. 3, 4. Ouais.
Voilà donc le plan. Alors, ce plan de mise en page, cette fois-ci, on va commencer à voir apparaître les dessins. J'ai mon texte qui a déjà été fort travaillé, vraiment énormément modifié, avec toutes ses sources. Et je vais commencer à chercher soit des idées de petites caricatures, de petits gags, soit l'illustration, la meilleure, pour illustrer telle chose. Par exemple ici, le moineau casseur de graines, je vais essayer de trouver l'image la plus saisissante pour montrer dans la façon dont le moineau mange les graines, ce qui n'a pas l'air aussi évident que ça en a l'air.
Parce qu'il faut dire que sur la hulotte, on a toujours un dessin scientifique, rigoureux. Oui, oui. À côté de ça, on a aussi un dessin humoristique. Donc on joue sur les doubles.
Oui, voilà. C'est ça, toujours ne jamais se prendre au sérieux et toujours introduire de l'humour, du second degré, des plaisanteries. La hulotte est destinée aux enfants. n'y a en principe pas de photos, il y en a quand même quelques fois, mais en principe il n'y a pas de photos dans la Hulotte, c'est tout des dessins ou traits, au stylo en creux de chine tubulaire. Alors le dessin présente un avantage absolument énorme, c'est que vous pouvez, à partir de différentes photos, vous n'avez jamais une photo parfaite, parce que ne serait-ce que pour des questions de profondeur de champ, si l'aile est nette, la patte ne le sera pas forcément, la queue sera nette mais pas le bec. Et donc, je peux aller pêcher une aile ici, une plume là-bas, une attitude, et recomposer un dessin qui va tenir compte des meilleurs éléments que je peux puiser à droite à gauche. Très souvent, pour un seul dessin, je vais avoir des sources multiples, quelquefois 6 ou 7 sources. Pour le moineau, j'ai dû aller chercher, je ne sais pas, 5000 images. Oui, plus de 5000 images. Alors ces images, je vais les analyser toutes, une par une, en regardant d'une façon très détaillée tout ce que cette image m'apporte.
La zone forestière juste en face.
Quoi de mieux que d'aller sur le terrain pour observer le merle, sujet des numéros 112 et 113 de la Hulotte. Et pour ce faire, le parc ornithologique du Marcanterre, dans la baie de Somme, est le lieu idéal. Car ce matin, Philippe Carruette, le responsable pédagogique et lecteur assidu de la Hulotte, bague les merles en compagnie de Léa.
On va prendre la zone forestière, là. Je vous laisse ouvrir la marche, mesdames.
Bien sûr.
Vous allez porter chance. Là, on est sur un habitat qui est hyper favorable pour le merle, hein. C'est notamment en migration. Des dunes avec des buissons d'arbousier, avec des petites baies oranges qui lui servent de nourriture. Et puis de la forêt claire, qui est aussi avec beaucoup de feuilles mortes au sol, où il va aussi trouver sa nourriture au sol. Comme on est en bord de mer, au niveau migration, c'est un lieu hyper favorable pour le passage des merles. Et des grives et de plein d'autres espèces. Ah, justement, voilà un merle qui vient de décoller. Hop, qui passe au fond. Il était posé dans les aubépines. Je cherchais aussi les baies d'aubépines.
Pierre Déhomme, sur la partie documentaire, est-ce qu'il y a des sorties terrain?
Tout dépend des sujets. Alors, je me méfie énormément de mes propres observations. Un observateur, il doit vraiment passer énormément de temps sur son sujet. Moi, j'ai connu des gens qui avaient travaillé 20 ans sur une espèce. Les observations qu'on peut faire, moi, j'en fais parce que je dois m'imprégner du sujet. Il y a une espèce d'émotion qui se fait quand vous étudiez les choses. Ça, c'est très important, c'est irremplaçable. Mais à la limite, tout ce que j'ai pu observer, je vais l'oublier. Parce que c'est très vite fait de faire des erreurs. Donc j'oublie mes observations et je m'appuie uniquement sur celles des scientifiques qui ont fait des travaux, des études vraiment... méthodique, prolongée, sur des bases d'observation bien cadrées, bien scientifiques, en fait.
Il y a une mésange.
Bon. Au moins.
Ah, au moins. C'est bien. Au moins, par rapport à ce matin, depuis le lever du jour, c'était calme. Donc là, on a 48 mètres de filet. Hein. C'est une station de bagage du CRBPO, hein, du Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux. On entend un merle qui chante. Alors, c'est pas un merle, c'est la repasse. Hein. On utilise de la repasse pour attirer les oiseaux autour de la station de bagage. Et là, Léa est en train de démailler une maison charbonnière. Les champs que l'on met servent à attirer les oiseaux en migration. Les merles passent beaucoup la nuit, hein. Ils passent aussi au lever du jour. Donc au lever du jour, ils entendent les chants de leurs collègues et descendent vers la forêt en basse altitude et peuvent se taper ensuite dans les filets. Ils tombent dans les poches, dans les filets, il n'y a aucun danger, hein. C'est des filets nylon avec des poches. Ensuite, on les démaille. qui sont mis dans un petit sac, dans un pochon à l'obscurité pour pas perdre d'énergie, pas stresser. Et ensuite, on va les peser, les mesurer et les baguer. Hein.
Pierre Déhomme, donc le prochain numéro, le numéro 113, sera consacré aux merles, en faisant suite au numéro qui vient de paraître. Qu'est-ce qu'il contiendra d'important, ce numéro ?
Le premier numéro sur le merle parlait de son hiver, la façon pas forcément toujours facile avec laquelle il passe la mauvaise saison, où il peut rester sur le carreau. Et le deuxième, le prochain numéro qui va paraître, lui, il va parler des merles qui ne passent pas l'hiver sur place. C'est une population de merles. Certains choisissent, peut-être pour des raisons génétiques qui sont mal connues d'ailleurs, de rester sur place, quitte à mourir en hiver si la saison est mauvaise. Et d'autres, notamment les merles de forêt, qui ont pratiquement très peu de chances de survivre si l'hiver est rigoureux, si l'hiver est doux, pas de problème, eux choisissent de partir. Et ils vont entreprendre un voyage qui peut les mener de Finlande jusqu'en Algérie. Enfin, c'est grand trait. Et les merles scandinaves, évidemment en Scandinavie c'est très difficile de passer l'hiver, certains y arrivent à condition de rester sur les bords de la mer, mais quand même de prendre un risque d'y laisser la peau. Donc ceux-là qui voyagent vont traverser, peuvent traverser 500 ou 600 kilomètres de la mer du Nord, en une étape, d'un seul coup. Moi c'est ce qui m'a fasciné, c'est de penser que cet oiseau qu'on voit jamais voler, plus de 10 mètres, au ras du gazon, qui a l'air un peu lourdeau, pas très. Voilà, est capable de partir de nuit. Parce qu'en plus, il voyage la nuit, ce qui est extraordinaire quand on y réfléchit. Alors, il va traverser la mer du Nord, apparemment plutôt bas, pas très haut au-dessus des vagues. Et puis, quelquefois, il est pris dans une tempête. Et la tempête qui l'a fait partir de Scandinavie va le propulser au Saint-Saint Diable. Il risque de mourir, bien sûr, d'épuisement, mais il risque aussi d'arriver sur une île, et c'est comme ça qu'on a vu des merles arriver en Islande, et probablement d'autres merles poussées par les vents, les tempêtes sont arrivées à Madère, aux Açores, où ils ont fait des souches il y a certainement très 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 longtemps, mais il y a des merles dont la présence aux Açores ne peut s'expliquer comme ça. Donc ça, j'ai trouvé fascinant de raconter comment cet oiseau banal d'abord vole la nuit, c'est quelque chose qui m'émerveille. Apparemment, en se localisant aux étoiles, c'est pas démontré, mais il y a des grandes chances. Donc ça, déjà en soi, c'est un mystère invraisemblable. Et ensuite, fait le voyage de retour. Et tout ça est pour moi de l'ordre du merveilleux. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Philippe Caruette, que la Hulotte pour ses 50 ans consacre deux numéros au merle, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oh ben c'est vraiment une bonne initiative parce que le merle est quasiment connu de tous. C'est un oiseau qui est hyper intéressant au niveau comportemental et qui évolue encore aujourd'hui en permanence. Donc il y a de quoi largement remplir de numéros sur cette espèce. C'est assez étonnant parce que c'est souvent les espèces les plus, j'ai horreur de ce mot, banales, qui demandent le plus de recherches, le plus d'informations. Quand on voit la diminution du moineau domestique, et on était complètement dépourvus parce qu'il y avait peu d'informations sur le moineau. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, que ce soit le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et puis les ornithologues européens sur le moineau. Le merle est vraiment une espèce intéressante. On estime entre 5 et 8 millions de couples de merles en France. Donc c'est un oiseau qui est bien pour commencer l'ornithologie.
Précisément sur le merle, quel élément caractéristique de cet oiseau est-ce qu'on peut souligner ?
Je dirais c'est le côté calme, alors que c'est un oiseau extrêmement anxieux, extrêmement stressé, quand il niche dans le jardin, il faut vraiment éviter les dérangements. Les dérangements au nid, parce qu'il peut abandonner sa couvée, il n'abandonnera pas ses petits. Quand il y a un nid de merle avec des petits à l'intérieur, il ne faut surtout pas s'approcher, parce que les petits quittent le nid à peu près entre 12 et 15 jours. Et s'ils sont gros, ils peuvent tout de suite s'envoler du nid, alors qu'ils ne savent pas encore voler. Donc c'est un faux calme quand on voit son comportement. Il est extrêmement stressé. En ville, il est confiant. Vous passez à côté sur une pelouse, vous allez en forêt, il est inapprochable. Il va s'envoler très très loin. Ben, on voit là un qui passe derrière nous de merle, justement, en migration.
Dans le numéro 112, j'ai trouvé l'expérience d'un Allemand, d'un professeur allemand, qui a étudié le merle en laboratoire, et il a fait passer la température du laboratoire de 30 degrés à moins 20 degrés. Et il a photographié le merle. Et on voit le merle qui, à mesure que la température baisse, se gonfle. Vous voyez ici, il est linéaire, c'est les merles allongés qu'on voyait tout à l'heure. Mmh. Et puis là, il commence déjà à gonfler son plumage, on n'est pourtant qu'à 20 degrés. À 10 degrés, il est déjà rond. Et puis à 0 degrés, là, il est franchement rond comme une pomme.
Et c'est une boule après.
C'est une boule. Et là, à moins 10 degrés, non seulement il s'est mis vraiment en forme de boule, mais il a rentré la tête dans ses plumes. Et vous voyez qu'à moins 20 degrés, là, cette fois-ci, la tête, elle est à peine discernable, elle est totalement rentrée dans le plumage.
Est-ce que c'est-à-dire que donc vous avez voulu illustrer une expérience sur la dont vous aviez pris connaissance, ouais. Et pour l'illustrer, vous vous êtes servi de votre bibliothèque numérique?
Je m'en suis servi marginalement, parce que je me suis surtout servi de ces photos à lui, parce que j'étais sûr que c'était la bonne forme au bon moment. Donc il avait fait ces images, j'ai demandé l'autorisation de les reproduire, il me l'a accordé, et donc il avait aussi ces dessins là où on voit le merle dont le plumage se gonfle, et ici la silhouette du corps, en fait, qui est très réduite par rapport au plumage, c'est spectaculaire. Bon, par contre, vous voyez ici, ça c'est une photo de merle qui est sur une patte. Donc, quand j'ai passé en revue mes images, comme je les examine une par une, je prends en général une ou deux minutes par image, pour regarder tous les détails, et c'est comme ça que je vais trouver des choses qui vont m'intéresser. Là, j'ai sélectionné toutes les images où le merle était sur une patte. Et j'ai vu dans une étude allemande que c'est un système que le merle utilise pour lutter contre le froid. Quand il fait très froid, il gonfle son plumage, mais ça ne suffit pas. Il se met sur une patte seulement et rentre l'autre au chaud sous ses plumes. Et quand la patte extérieure devient vraiment trop froide, il change de patte. Il sort celle qui s'est réchauffée et il rentre l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé. On a même vu des merles décoller ou atterrir sur une seule patte. Et ça, c'est intéressant parce que les gens vont observer les merles et toutes ces choses qu'ils n'avaient pas forcément visualisées vont pouvoir les voir depuis leur fenêtre. Donc voilà. Donc là, c'est le mien qui vient de sortir. Ah ben c'est la dernière relecture par Claire.
Donc là, on en est à la phase vraiment dernière relecture, et après ça, ça part à l'impression.
Alors après ça, une fois que les dernières retouches sont faites, oui, ça part à l'impression. Je vais envoyer les dessins à la photogravure. C'est des dessins qui sont complexes à travailler, parce qu'en fait, je les réalise au double de leur format. Donc, voilà, par exemple, celui-là, c'est pour le prochain.
Donc on voit un nid.
C'est un nid de merle. Donc il est réalisé avec cet outil-là, qui est un stylo encre de Chine.
On voit que les dessins sont d'une extrême précision. Où est-ce que vous avez appris à dessiner, Pierre Déhomme?
Je n'ai jamais appris à dessiner. J'ai appris en faisant la hulotte, en fait. Quand je regarde les premiers dessins des numéros 1 et suivants, c'était vraiment horrible. Je ne connais aucune technique, c'est un handicap, mais bon, voilà, il faut faire avec.
Philippe Carré.
Pierre Huette, la Hulotte a été créée il y a 50 ans. C'était un précurseur. Il y avait cette idée de protection de la nature et de l'environnement. Aujourd'hui, ce qui caractérise la Hulotte, c'est aussi un message très positif du point de vue de l'environnement, de la protection de la nature.
C'est un message très positif qui date des premiers numéros. L'envie de faire. Quand je relis des Hulottes, j'ai envie d'aller observer. J'ai envie de faire quelque chose. Parfois, on a beaucoup de scolaires sur le parc du Marcanterre, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants qui veulent faire des choses sur l'environnement, mais qui sont dépassés, qui protéger la planète. Vous vous rendez compte, pour un enfant, protéger la planète, c'est énorme, c'est un poids énorme sur les épaules. Et quand on lit la Hulotte, eh bien, on a tout de suite envie d'aller observer ces animaux sur le terrain. Et là, c'est déjà une action hyper importante de protection de la nature. Et puis, il y a toujours des messages positifs de protection, d'aller voir son maire pour peut-être planter des haies, faire des petites choses ou planter un verger ou faire des éléments positifs sans grand discours éloquent. Et je pense que ça, c'est une marque de fabrique de la Hulotte, cette positivité et cette envie de faire. C'est pour ça aussi qu'on a envie de prêter la Hulotte, de le donner, d'abonner des copains. C'est parce que c'est cette positivité qui est extrêmement agréable. Et s'il y avait un mot pour résumer la Hulotte, je pense que c'est celui-là. Il y en aurait beaucoup, mais c'est celui-là que je prendrais.
C'était les 50 ans de la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Avec Pierre Déhomme, père de la Hulotte, Claire Ménissier, documentaliste de la Hulotte, et Philippe Carhuette et Léa du parc ornithologique du Marcanterre. Un grand merci à Christine Déhomme. Recherche musicale Antoine Vuoz, attaché d'émission Sylvia Favre, coordination Christine Bernard, un documentaire de Sacha Corso et François Test.